Ici l'Europe, Juliette Garbrand, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour Ici l'Europe. Alors que la COP24 démarre en Pologne le 2 décembre, nous recevons aujourd'hui l'homme à la moustache dont le nom rime avec altermondialisme et aujourd'hui d'ailleurs beaucoup avec Parlement européen. José Bové, bonjour.
Bonjour.
Un hémicycle où vous siégez depuis près de 10 ans. Bonjour José Bové.
Bonjour.
Vous êtes membre de la Commission Agriculture et Développement, syndicaliste agricole. Vous avez cofondé le syndicat français Confédération Paysanne qui défend l'agriculture paysanne. Vous avez aussi au niveau international cofondé via Campesina. Pionnier du Larzac dans les années 70, pourfendeur du productivisme à tout crin, défenseur de la désobéissance civile. On vous a vu arracher des plantations OGM, démonter un McDo à Millau. Et vous êtes toujours sur le terrain pour défendre vos idées. Vous ne lâchez rien, sauf peut-être Strasbourg, Bruxelles, puisque vous ne vous représentez pas en mai prochain. Vous nous direz pourquoi. Mais d'abord, on va passer en revue l'actualité européenne.
Oui, alors on parlait de cette fameuse COP24, démarrage. Alors, en Pologne, le pays, quand même, très symboliquement, le plus dépendant au charbon de l'Union européenne. C'est vraiment un paradoxe. Est-ce que l'Union européenne est encore d'ailleurs leader sur ce dossier, ou est-ce qu'on est en train, avec l'attitude des Américains notamment, de lâcher sur tous nos objectifs de réduction des CO2?
En tout cas, c'est l'impression que ça donne, parce qu'après la grand-messe parisienne de la COP21, où tout le monde avait dit c'est formidable, là vraiment on est en avance, la France est pionnière, l'Union européenne, on va voir ce qu'on va voir. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, les émissions de CO2 augmentent, et notamment en Europe. Et donc, on est quand même dans une situation invraisemblable. Il y a quelques jours, l'association Greenpeace, et d'ailleurs, est allée dénoncer le scandale en grimpant sur une tour d'une centrale à charbon, de la plus grosse centrale à charbon polonaise. Et les Polonais disent, il est hors de question qu'on abandonne le charbon. Donc, on est dans un moment paradoxal. Les Allemands vont nous dire pareil, les Français. Les automobiles, c'est bien, mais moins on abaissera les niveaux d'émissions, mieux on sera. Et donc, quand le Parlement européen dit qu'il faut aller jusqu'à 40% de baisse sur les émissions de voitures, eh bien, le Conseil dit que ce n'est pas possible.
Et jusqu'à 45% sur les CO2, en l'occurrence, d'ici 2030, donc faire un effort supplémentaire.
Emmanuel Macron, en France, a fait des annonces importantes hier. Il a lancé un grand plan sur l'environnement. Il a annoncé notamment le triplement de l'éolien terrestre, la multiplication par 5 du solaire d'ici à 2035, la réduction de la part du nucléaire de moitié dans la production électrique. Ce sont des annonces que Nicolas Hulot n'aurait peut-être pas reniées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Écoutez, moi, ce que je remarque, c'est que déjà sur la question du nucléaire, on retarde par rapport à la loi de 2015 sur la transition énergétique. Et donc là, on sait qu'on ne fermera moins de centrales que ce qu'il faudrait. Et donc, on nous annonce 6-8 centrales maximum. Il y a quelques jours, Nicolas Hulot, à la télévision, disait il faut en fermer entre 14 et 16, si on veut respecter le timing. Donc ça, c'est le premier problème. Et puis, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a ces annonces, mais on a en même temps, c'est le cas de le dire, 6 contournements autoroutiers qui ont été validés à nouveau. Mais notamment alors, celui de Strasbourg, qui est un pur scandale écologique, comme l'a aussi dénoncé Nicolas Hulot à la télévision.
Oui, alors, mais il tient bon en attendant sur la taxation du diesel, en annonçant une concertation face à des gilets jaunes qui sont très remontés. Qui a raison ?
Je pense que sur la question de la taxation carbone, ça c'est quelque chose qui était indispensable. C'est quelque chose qu'on revendique nous depuis des années, c'est de dire de transférer les taxes sur le travail sur les émissions de carbone. Mais maintenant, il faut qu'on aille plus loin, et notamment au niveau européen. Il faut que tout ce qui rentre à l'intérieur de l'Union européenne, eh bien, puisse être taxé sur le carbone, parce que à un moment, ça devient un scandale. Ça fait partie des ressources propres de l'Europe.
C'est donc là-dessus les zones ont tort, faire. C'est ce que vous dites ?
Non, parce que eux, ils sont sur un autre sujet. Le sujet, c'est effectivement que, comme toute taxe direct, c'est comme la TVA, ça touche tout le monde à la fois. Et touchant tout le monde à la fois, quel que soit le revenu. Donc, comment on change la réalité du transport pour les gens les plus modestes? comment on remet les trains alors que depuis les derniers plans trains qui ont été faits en France, on ferme les voies de chemin de fer. Il y a un moment, il faut qu'il y ait une cohérence sociale et écologique. On n'a jamais dit qu'il fallait opposer ceux qui craignent pour la fin du mois et ceux qui craignent pour la fin du monde. C'est les deux ensemble. Et on ne changera l'avenir de la planète que si on est capable de répondre socialement à toutes les crises que les gens vivent au quotidien.
Alors justement, la réponse des Verts.
La réponse des Verts, tête de liste aux européennes. Vous avez vos têtes de liste pour les élections européennes. Un binôme, donc, constitué de l'Allemande Ska Keller et du Néerlandais Bas Eekhout. Pas très connu du grand public. Ils vont quand même pouvoir, sans doute, compter sur une dynamique assez forte en ce moment. Il y a eu des élections en Allemagne où les Verts ont fait de très bons scores. Ils sont donnés deuxième parti au niveau national par les sondages en cas d'élection. Dans d'autres pays aussi, comme la Belgique. Qu'est-ce que vous espérez comme résultat?
Aujourd'hui, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 27 pays qui vont voter, puisque la Grande-Bretagne ne votera pas pour ces élections européennes pour la première fois. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais à peu près rien. C'est vrai qu'on a au moins trois pays, Luxembourg, Belgique, Allemagne, où les écolos, sur des élections régionales ou nationales comme au Luxembourg, ont eu des bons résultats. Est-ce qu'on aura ça en France? En France, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament de l'écologie.
Voilà, il y a un éclatement énorme. C'est un peu une malédiction en France, non?
Ça, je pense que c'est le masochisme français politique. C'est vrai que la seule fois où on a échappé à cette catastrophe, c'est en 2002, quand, avec Daniel Cohn-Bendit et Eva Joly, tous les trois ont tiré une liste qui dépassait la logique des partis. Ça a marché jusqu'à ce qu'un parti récupère notre histoire et qu'aujourd'hui, on en revienne à des logiques d'appareil. Moi, je voudrais que tous ceux qui se réclament de l'écologie et qui mettent l'écologie au centre soient capables de se retrouver, mais sans faire ensuite d'ultimatum à l'autre en disant « non, c'est moi le meilleur, c'est toi pas le meilleur », etc. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc on est en train de gâcher, peut-être, j'espère que non, l'enthousiasme qu'on a vécu il y a 10 ans, et c'est ça, vers ça qu'il faut retendre.
Alors on passe à la grande affaire de la semaine qui a été, encore et toujours, j'ai envie de dire, le Brexit. Theresa May a appelé les députés britanniques et le peuple à soutenir l'accord de divorce obtenu avec l'Union européenne. Le vote du Parlement aura lieu le 11 décembre à Westminster, avant la pause parlementaire de fin d'année. Mais les difficultés s'accumulent, comme nous l'expliquent Séverine B et Noémie Roche.
La priorité de Theresa May ces derniers jours, convaincre les députés britanniques de voter pour l'accord conclu avec l'Union européenne.
Il y a un choix que cette Chambre devra faire. Nous pouvons soutenir cet accord et respecter le résultat du référendum et aller de l'avant pour construire un avenir meilleur, fait d'opportunités et de prospérité pour notre peuple. Ou bien cette Chambre peut choisir de rejeter cet accord et de revenir à la case départ. Personne ne sait ce qui arrivera si cet accord ne passe pas. Cela ouvrira la porte à plus de divisions et plus d'incertitudes, avec tous les risques que cela comporte.
La ratification par le Parlement est loin d'être gagnée. Pour l'heure, la première ministre britannique ne semble pas avoir la majorité. Parmi les opposants, les travaillistes, mais aussi les députés conservateurs souhaitant un Brexit dur, ainsi que l'allié de Theresa May, le DUP. Arlene Foster, chef de file du parti unioniste nord-irlandais, dénonce le statut spécial réservé à l'Irlande du Nord.
Nous appelons à un meilleur accord. Je demande à Theresa May d'écouter ce que les parlementaires ont à lui dire, d'écouter tous ceux qui soutiennent son gouvernement et qui lui ont fait confiance.
Le Parlement se prononcera le 11 décembre, un vote qui sera suivi de près à Bruxelles, où l'on a déjà prévenu, pas question de négocier un nouvel accord.
José Bové, vous avez parlé de gâchis du Brexit, mais comment, selon vous, tout cela va se terminer?
Celui qui le sait est bien malin, parce que effectivement, le 11 à Westminster, les députés britanniques vont voter. Il y en a qui vont voter non, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Il y en a parce qu'ils sont contre l'accord, d'autres parce qu'ils se disent si on vote non, on aura peut-être des élections anticipées. Ça, c'est le pari, je dirais, des travaillistes. Après, il y a ceux qui disent « il n'est pas question qu'on cède sur la question nord-irlandaise ». Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui aux députés de Grande-Bretagne, s'ils nous écoutent, de toute façon, il n'y aura pas d'autre accord possible. Parce que l'Union européenne doit respecter un certain nombre de règles quand il y a un pays qui sort. Et ces règles sont définies sur la libre circulation des personnes, des marchandises, sur les droits, sur l'environnement. Ces règles sont imposées. Donc, on n'en bougera pas. Et s'il y a un accord des 27 aujourd'hui que tout le monde a ratifié au niveau des États, il manque plus que le Parlement européen, mais là, il n'y aura aucun souci, c'est clairement parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Donc les Britanniques devraient faire attention. Ou, effectivement, ils suivent Theresa May parce qu'il n'y aura pas d'autre accord possible, ou alors ils risquent de partir dans un Brexit dur parce qu'un autre gouvernement ne fera pas mieux, ne peut pas faire mieux.
Il reste beaucoup d'incertitudes, hein, notamment sur la pêche.
Il reste quelques incertitudes. Il reste la question, effectivement, de la pêche, qui est une question évidemment importante, sur se partager
l'union
à
douanière.
Nouveau l'union douanière. Sur quelle union douanière ils veulent aller? Parce que s'ils refusent ce qu'ils auraient proposé là, ce qui va ressembler un peu à ce qui se passe avec la Suisse ou avec la Norvège, mmh. ils veulent pas faire ça. Ils vont être obligés de renégocier un accord, de négocier un accord de libre-échange avec l'Union européenne, mais ça va toucher les transports routiers, parce que qu'est-ce qui va se passer pour les camions? On va avoir des queues de 60 km à la frontière, parce qu'il va falloir absolument tout vérifier, y compris sur les permis de conduire d'ailleurs, parce qu'il va falloir qu'ils demandent des permis de conduire internationaux pour venir dans l'Union européenne, puisqu'ils n'auront pas les mêmes règles du jeu, etc., etc., et on peut les multiplier à l'infini. Donc aujourd'hui, je dirais que les Britanniques, en ayant voté pour le Brexit, se sont tirés une balle dans le pied, mais ont été intoxiqués clairement par des populistes qui n'avaient absolument pas vu ce qui allait se passer. Et j'irais notamment sur la question irlandaise, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de frontière possible. C'était contraire aux accords du Vendredi Saint.
Alors, le budget italien, on passe à l'autre grand sujet pour les Européens en ce moment, est hors les clous avec un déficit de 2,4% du PIB. La Commission a lancé une procédure d'infraction, une nouveauté absolue, mais la main reste tendue, nous dit-on. Est-ce que, on sait bien que vous n'aimez pas beaucoup ce gouvernement italien, il est quand même composé de la Ligue, l'extrême droite et les 5 étoiles. Mais en attendant, est-ce que c'est une bonne stratégie de le sanctionner?
Moi, je pense qu'on a une règle du jeu. Elle est ce qu'elle est, elle n'est pas forcément extraordinaire. Et on a souvent dit, par exemple, qu'il fallait que tout ce qui était investissement, notamment en termes social ou en termes environnementaux, ne devrait pas être comptabilisé dans les investissements. Là, aujourd'hui, on est à un moment où il va falloir faire des choix au niveau européen. Mais ce qui est clair, c'est que là, c'est quand même ce nouveau gouvernement et l'extrême droite italienne qui poussent les feux pour essayer d'amener l'Europe à la faute et en essayant
Qui y arrive finalement, qui y arrive très bien.
Qui y arrive pour l'instant. Il arrive, mais leur objectif, clairement, c'est d'opposer les Italiens en disant « Regardez comment on est fort, regardez comment on sait se défendre face aux bureaucrates de Bruxelles », entre guillemets, quoi. C'est un peu ça, l'idée.
Ah oui, ils ne vont pas être renforcés ici, au Parlement européen, en mai prochain?
Ah, ils peuvent toujours être un peu plus, mais je ne sais pas dans quel groupe ils vont être. Ils vont toujours rester dans le même groupe, sauf qu'ils n'auront plus leurs amis de l'UKIP pour être avec eux à l'intérieur de ce groupe, quoi. Hein.
Les 5 étoiles.
Pour les 5 étoiles.
La Ligue est avec Marine Le Pen.
Hein. La Ligue est avec Marine Le Pen. Donc, de toute façon, quoi qu'ils fassent, mécaniquement, ils n'auront jamais la majorité dans ce Parlement européen. Donc, ils peuvent rêver comme ils veulent, mais comme aucun groupe ne peut être majoritaire et qu'on travaille justement par consensus ou par compromis, eh bien, clairement, il va y avoir un barrage à toutes ces idées. Et ce qui se passe justement en Grande-Bretagne, ce qu'on a discuté avant, va montrer que toute sortie de l'Europe, comme certains en fantasme, se paye cash et très cher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne crois pas à ce risque de transformation du Parlement européen comme étant un Parlement brun-noir.
Parlons immigration. José Bové, je voudrais rappeler à ce sujet que vous avez proposé récemment à Hendaye de prendre la place en centre de rétention de migrants détenus contre leur volonté. Le 21 novembre, des migrants secourus par un cargo commercial au large de la Libye, puisqu'il n'y a plus de bateaux humanitaires, ont été débarqués de force par les forces de l'ordre libyennes. Il y a eu des blessés, ça s'est très mal passé. Et pourtant, le gouvernement de Salvini, bien sûr, mais aussi de bon nombre d'autres pays européens, ne jure que par les pactes migratoires qu'on conclut avec des pays tiers, et notamment avec un pays en guerre comme la Libye. Est-ce que l'Union européenne est à la hauteur de ses valeurs en faisant ce type d'accord avec la Libye?
Pour moi, très clairement, non. Je pense que c'est même quelque chose qui est en contradiction avec les droits européens, avec la charte des droits européens, qui sont les droits fondamentaux de l'Union européenne. En acceptant de s'allier avec des pays en guerre, avec des pays sans État, on va dire, en parlant de la Libye, parce qu'il n'y a aucune personne qui contrôle quoi que ce soit, mais aussi avec certains autres pays, je pense notamment actuellement avec le Maroc, où le Maroc dit « Attention, si vous ne signez pas tous nos accords économiques, y compris sur le Sahara occidental, nous, on ouvre les frontières des migrants ». C'est absolument scandaleux. Mmh. Donc là, il y a un système qui est en train de se mettre en place très dangereux, où on fait gérer de l'autre côté de la Méditerranée le problème d'accueil de personnes qui fuient des pays en guerre, qui fuient la misère dans beaucoup de pays, des paysans qui ont été chassés par le changement climatique aussi, etc., etc. Notre devoir, c'est d'accueillir les gens. Et on le sait que si on est capable de le faire correctement, il y a un certain nombre de gens qui, si les conditions s'améliorent dans leur pays, auront envie d'y retourner. Ils viennent pas là par plaisir. Et c'est ce que j'ai envie que les gouvernements comprennent. C'est que il n'y a jamais un migrant qui part de chez lui. Je connais personne qui part de chez lui uniquement pour dire, tiens, je vais voir comment c'est de l'autre côté. On le fait parce qu'on n'a plus d'autres moyens. Ou alors, c'est un choix clair. Et c'est d'ailleurs curieux parce qu'en français, on a deux mots différents. Quand on chasse les gens en Méditerranée ou qui meurent, ce sont des migrants. Quand un Français ou un Européen va travailler à l'étranger, c'est un expatrié. Et c'est valorisé. Et on s'aperçoit qu'on en a des centaines de milliers. C'est un peu scandaleux, quoi. Donc là, vraiment, c'est deux poids, deux mesures. Et je pense qu'on doit retrouver nos valeurs et qu'on doit tenir tête à tous ceux qui cherchent des boucs émissaires.
Alors, un tour du côté des pays riches quand même, José Bové, puisque vendredi s'est ouvert à Buenos Aires un G20 dans la plus grande morosité, avec un Donald Trump qui a déclenché la guerre commerciale, y compris avec ses partenaires européens. Qu'est-ce que vous en attendez de cette fameuse rencontre d'une part du G20 et puis justement dans cette ambiance un peu de tension commerciale très importante?
Je dirais que j'ai jamais cru vraiment, ni au G7, ni au G20, qui donne toujours une impression de petit club fermé de pays riches. Par contre, ce qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est ça, là, il faudra avoir du courage politique. Et peut-être que l'Union européenne pourrait être au cœur de ce processus, c'est relancer l'Organisation mondiale du commerce, mais en lui donnant une autre orientation. Là, on a bien vu comment des années, et c'est pour ça qu'on s'est battu contre, l'objectif de l'OMC, c'était d'ouvrir les portes et les fenêtres et de lancer le libre-échange à travers la planète. On voit que ça ne marche pas pour des raisons évidentes, c'est que socialement, c'est un échec. Sur les questions d'agriculture, n'en parlons même pas, c'est là où il y a tous les conflits. Et on voit que cette logique est à l'abandon. Donc, il faut remettre en place une véritable Organisation mondiale du commerce qui est basée sur le respect des droits. Droit du travail, droit de l'environnement, droit à la souveraineté alimentaire pour les paysans, et reconstruire de la coopération internationale. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de guerre.
Et à partir du moment où on fait de la compétition... On aura entendu quand même José Bové nous dire « Vive l'OMC ».
Exactement.
C'est intéressant.
C'est ce que j'ai toujours dit, même à Seattle en 99, soumettons l'OMC aux droits de l'homme. Et on s'est battu pour ça. C'est pas contre le multilatéralisme, mais c'est pour du vrai multilatéralisme.
José Bové, on le disait en début d'émission, vous tirez votre référence de Bruxelles et Strasbourg. Quels sont vos projets?
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que je ne me représente pas pour être élu. Je serai certainement sur une liste, mais je ne me représente pas pour être élu. Donc je serai en fin de liste. J'avais dit, dès 2009, quand je me suis engagé, je fais un mandat. Si je vois que la bataille en vaut la peine, je briguerai un deuxième mandat, mais au bout de 10 ans, de toute manière, j'arrêterai parce que je pense qu'il est important aussi qu'il y ait du renouvellement. Ça serait quelque chose à demander aussi à tous les candidats. Si vous êtes élu, combien de mandats maximum acceptez-vous de faire? En gros, aujourd'hui, c'est un mandat qu'on a des électeurs et ce mandat doit être limité dans le temps. Sinon, la politique devient un métier. Et dans ces cas-là, c'est une catastrophe. Et on voit très bien d'ailleurs comment ça se passe en France, où il y a un dégoût du politique de plus en plus. Là, une dernière élection municipale partielle, 18% d'électeurs. On voit bien la catastrophe. Donc moi, j'ai pas envie que l'élection européenne, dans quelques mois, ça soit l'élection où les gens iront le moins voter parce qu'ils ne croiront plus ni dans ceux qui se présentent, ni dans l'Europe. Il faut défendre l'Europe et donc avoir une vision politique qui soit cohérente et qui soit en même temps déontologiquement satisfaisante.
Merci José Bové d'avoir été notre invité très européen aujourd'hui.
Merci à tous de nous avoir suivis sur les antennes de RFI et France 24. Vous restez avec nous pour la suite de l'actualité internationale.
À très bientôt à tous.